Bonsoir, Monsieur le recteur, Madame Jérôme Forgette, Monsieur Godbout, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Guy Bertion, mais je suis président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cette huitième et dernière conférence du cycle que nous avons conçu avec l'UQAM dans la foulée de notre entente de partenariat. La série « La Révolution tranquille, 50 ans d'héritage » s'est révélée être emblématique de notre volonté commune de démocratiser le savoir et la culture. Le succès qu'a rencontré notre initiative nous confirme, l'UQAM et nous, dans notre volonté de travailler ensemble. Restez à l'affût, nous avons d'autres projets aussi emballants pour la prochaine année. La série de conférences sur la Révolution tranquille a été rendue possible par l'appui financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Pardon. Je remercie la presse, notamment M. André Pratt et Mme Christiane Dubé, de s'être associés à la promotion de la série. Grâce à l'appui de Télé-Québec et de Canal Savoir, les conférences sont diffusées sur Canal Savoir les lundis à 20h, les mercredis à 11h, les vendredis à 23h et les dimanches à 16h. Si vous êtes déçu du bye-bye, et si la tendance se maintient, vous le serez, consolez-vous en écoutant la première diffusion de la conférence de ce soir, le lundi 3 janvier 2011 à 20h. Je remercie de leur précieuse collaboration Mme Michèle Fortin, présidente directrice générale de Télé-Québec, M. Claude Plante, directeur général des régions, des partenariats et des affaires internationales de Télé-Québec, de même que Mme Sylvie Godbout, la directrice générale de Canal Savoir. Enfin, je remercie tout particulièrement le recteur de l'UQAM, mon ami Claude Corbeau, qui a conçu l'articulation et la logique de notre série de conférences avec toute la science et la sagesse qu'on lui connaît. Je lui cède maintenant la parole. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente période des fêtes. Bonsoir.
Merci, M. Bertium, de votre aimable présentation. Merci aussi de nous accueillir dans cette belle maison que vous dirigez. Ce soir, mesdames et messieurs, j'ai le privilège de vous présenter non pas un conférencier, mais deux personnes. Je vous présente d'abord Mme Monique Jérôme Forget, qui vous est certainement connue comme femme politique. Elle a été députée de 1998 à 2009 et à compter de 2003, elle a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement du Québec, dont le redoutable Conseil du Trésor, les services gouvernementaux, les infrastructures et le ministère des Finances. Et à ce titre, elle a évidemment eu l'occasion de connaître de très près les caractéristiques de l'État québécois tel qu'il s'est constitué à partir de la Révolution tranquille et dans les années qui ont suivi. Elle a aussi exercé un ensemble de fonctions professionnelles qui lui ont permis de connaître de l'intérieur un certain nombre d'organismes publics façonnés aussi par les politiques québécoises du dernier demi-siècle. Elle a été tour à tour psychologue à l'hôpital Royal Victoria, directrice de services professionnels dans un CLSC, vice-rectrice aux finances et aux ressources humaines de Concordia, un an. Je pense que le milieu universitaire ne l'a pas aussi bien séduit que d'autres. Elle a été présidente-directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Et elle a effectué un séjour au ministère de la Santé et du Bien-être national à Ottawa. Voilà donc une carrière particulièrement variée. Mais il faut savoir aussi que Mme Jérôme Forget a une formation universitaire inusitée, puisqu'elle a associé à des études en économie et en histoire une formation de psychologue jusqu'au doctorat. Alors donc, elle regardera ce soir la Révolution tranquille et ses héritages d'un point de vue sans doute différent de plusieurs des conférenciers précédents, puisqu'elle a eu une pratique de l'appareil gouvernemental issue de ces transformations. Mais nous entendrons d'abord le professeur Luc Godbout. Monsieur Luc Godbout est professeur à l'Université de Sherbrooke, à la chaire en fiscalité et finances publiques. Il détient une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, un doctorat de l'Université d'Aix-Marseille, mais cette haute formation universitaire a pour socle solide et essentiel, j'ai plaisir à vous le dire, un baccalauréat en économie de l'Université du Québec à Montréal. Le professeur Godbout s'est spécialisé dans des domaines tels les politiques fiscales, la fiscalité comparée, les finances publiques. Son œuvre scientifique se caractérise par de multiples types de publications et de communications, depuis les ouvrages savants jusqu'aux communications dans des quotidiens. Et à travers cette diversité de publications, certains thèmes le préoccupent. L'impact de la fiscalité sur la vie économique, l'effet des changements démographiques sur les finances et les politiques publiques du Québec, la capacité du Québec à préserver des acquis sociaux majeurs et les conditions pour y parvenir. J'invite donc le professeur Luc Godbout à prendre la parole et il sera suivi par Mme Jérôme Forgette. Merci.
Bonsoir. D'abord, je dois vous dire que je me sens extrêmement privilégié de faire partie de ces grandes conférences sur la Révolution tranquille et, en quelque sorte, de participer à leurs conclusions. Mon thème aujourd'hui, ça va être l'analyse de la Révolution tranquille sous l'angle des finances publiques. Il va de soi que j'aurais aimé ça tracer l'évolution économique du Québec, mais dans le cadre de ces grandes conférences-là, Pierre Fortin a eu la chance de parler avant moi et il a fait de très bons constats que je partage. Ces constats à l'égard du rattrapage économique du Québec sont spectaculaires, qu'on pense à la scolarisation, à la participation au marché du travail, au chômage. Lorsqu'on se compare avec l'Ontario, on peut dire que c'est mission accomplie. Lorsqu'on regarde du côté du niveau de vie, on a divisé par trois l'écart qu'on avait avec l'Ontario. Donc, à ceux qui affirment que la Révolution tranquille n'a rien donné, les chiffres disent le contraire. Cela dit, le travail est loin d'être terminé. Ma proposition est que le Québec devrait s'appuyer sur ses succès passés pour prendre à bras le corps les défis de l'avenir. Et pour ça, je vais essayer de vous illustrer pourquoi, le meilleur gage de succès reste des finances publiques saines. L'objectif de la présente présentation sera de vous montrer les finances publiques du Québec en cernant leur évolution sur cinq décennies en matière de taille de l'État, d'équilibre budgétaire, de mode de financement, d'endettement et bien sûr du service de la dette qui en découle. Pour ce faire, l'approche que j'ai retenue, c'est l'évolution comparative en regard des autres provinces canadiennes. Une méthodologie simple, une présentation objective, dans le fond, des résultats. Je vous le dis tout de suite, au début, dans le fond, les constats sont relativement simples. Le Québec se distingue guère du reste du Canada. Au niveau des dépenses publiques, les dépenses publiques du Québec sont similaires aux autres provinces canadiennes. Le poids de sa fiscalité est aussi faible qu'ailleurs au pays. En découle également un équilibre budgétaire comparable au reste du Canada. En matière d'endettement, on était faiblement endetté, tout comme l'était le reste du Canada. Et par le fait même, les intérêts que l'on payait sur cette dette-là avoisinaient la réalité canadienne. Donc, à l'aube de la Révolution tranquille, le Québec avait, semble-t-il, les coûts des franges requises pour amorcer, sur le plan des finances publiques, ou entreprendre les gestes nécessaires pour faire son entrée dans la modernité. Si au départ, le Québec ne se distinguait guère du reste du Canada, les choix politiques qui ont été posés depuis la Révolution tranquille ont significativement métamorphosé la situation. Le point de départ. Le point de départ, dans le fond, s'inscrit dans le budget présenté par Jean Lesage en avril 1962, où il explique clairement comment il entend combler les retards qui assaillent le Québec. Il le dit, « Nous devons évoluer au même rythme que le monde moderne si nous voulons en faire partie. C'est pourquoi, pour rattraper autant de retards, le gouvernement sera obligé d'emprunter. » Et là, il fait un lien, il le dit, « Il serait injuste de faire payer à une seule génération des investissements qui vont avoir des effets durables. » Donc, il y avait une notion d'équité entre les générations. On passait par l'endettement. Donc, le choix de recourir à l'endettement était délibéré et il s'agissait en quelque sorte d'une cassure avec le régime Duplessis. Rapidement, cependant, on s'aperçoit que la gestion des finances publiques québécoises, le maintien de cet équilibre entre les dépenses et les revenus, est un exercice extrêmement difficile à maîtriser. Pour ceux qui sont excédés d'entendre le discours ambiant, soi-disant, sur le nécessaire contrôle des dépenses, sur la notion de vivre selon nos moyens, sur en avoir pour son argent, force est de constater que les tensions budgétaires remontent pratiquement aux premières années de la Révolution tranquille. Dans le cadre de la présente exercice, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai relu l'ensemble des discours budgétaires depuis 1960 jusqu'à nos jours. Un exemple parmi d'autres. Le niveau élevé des coûts des services publics, de l'effort fiscal et de l'endettement du Québec constitue un héritage bien lourd. Il n'y a vraiment qu'une seule façon de se dégager une marge de manœuvre, c'est de sabrer dans les programmes existants et de réformer la tarification de certains services publics. On a constaté que la tarification avait été largement sous-utilisée et qu'on avait laissé croire indûment aux contribuables que les services publics étaient gratuits. Évidemment, on pourrait me reprocher d'avoir pris le dernier budget bâchant, ou encore d'avoir pris un discours récent de Monique-Jérôme Forget, ou encore d'avoir pris un extrait du manifeste pour un Québec lucide. Mais le plus troublant, c'est que ça vient, dans le fond, du budget 77-78 de Jacques Parizeau. Simplement pour vous témoigner que la difficulté d'apparier, d'équilibrer les revenus et les dépenses, ça ne date pas d'hier. En fait, chaque ministre qui a eu le poste de ministre des Finances depuis 1970 a eu un jour ou l'autre à avoir ce type de discours-là à l'intérieur de son budget. Allons-y maintenant, dans le fond, avec l'analyse sur le plan des dépenses publiques provinciales et locales. Vous le constaterez, au départ, en 1961, le poids des dépenses publiques en proportion de notre richesse collective, le PIB, était légèrement plus faible au Québec qu'en moyenne dans les autres provinces canadiennes. Peu à peu, dans les années 60, les dépenses publiques prennent de l'ampleur, mais tant au Québec que dans les autres provinces, si bien qu'à la fin des années 60, dans le fond, c'est encore comparable. Le premier écart se creuse, dans le fond, dans les années 70, où les dépenses publiques, dans le fond, restent relativement stables dans les autres provinces canadiennes, mais augmentent fortement au Québec. L'écart se résorbe dans les années 80, puis un deuxième écart apparaît dans les années 90, où, pour assainir les finances publiques, l'ensemble des provinces canadiennes diminuent le poids de leurs dépenses publiques. Cependant, le Québec, une fois l'équilibre budgétaire atteint, réaugmentait son niveau de dépenses publiques, alors que les autres provinces canadiennes continuaient, poursuivaient tranquillement une diminution des dépenses publiques. Résultat, en 2007, le niveau de dépenses publiques provinciales et locales au Québec est 50 % plus élevé qu'il ne l'est dans les autres provinces canadiennes. Ça, c'est un sommet depuis 1961 d'avoir un écart aussi grand avec les autres provinces canadiennes. Je vais juste le mentionner pour ceux qui disent qu'il y a un vent de néolibéralisme qui souffle sur le Québec, là. On est obligé de dire que le vent ne souffle pas très fort sur cette image. Du côté de la taxation, la poids de la fiscalité a également fortement augmenté. Rapidement, la fiscalité est devenue plus importante au Québec. Encore une fois, un premier écart se creuse dans les années 70, où le poids de la fiscalité n'augmente pas dans le reste du Canada, mais augmente au Québec. Encore une fois, l'écart a tendance à se résorber dans les années 80. Et les années 90, l'écart se recreuse à nouveau, où, pour retrouver l'équilibre budgétaire, non seulement on a dû diminuer nos dépenses publiques, mais il a fallu augmenter la fiscalité pour y parvenir. Encore une fois, cependant, une fois l'équilibre budgétaire réatteint, les autres provinces canadiennes en profitent pour réduire leurs impôts. Et le Québec, on le voit ici, il n'y a pas de diminution de sa fiscalité, quoique certains critiquent beaucoup les baisses d'impôts. Alors, encore une fois, nous sommes loin de l'idée que l'État se retire, se désengage, réduit ses impôts pour affamer la bête. Alors, il n'y a rien qui nous permet de dire que l'État québécois se désengage lorsqu'on regarde l'évolution de la taxation, bien au contraire. Pour compléter le budget, revenus autonomes du Québec, dépenses, il reste les transferts fédéraux. Les transferts fédéraux ont beaucoup aidé le Québec dans les premières années. Ils augmentent fortement, de manière significative, jusqu'au milieu des années 80. Ils atteignent un sommet en 1984 avant de diminuer rapidement. Par la suite, ils se stabilisent, on pourrait dire, de 87 à 96, avant de diminuer de nouveau dans ce qui est convenu d'appeler la question du déséquilibre fiscal. À partir de 2005, ils réaugmentent, et là, l'inconnu, c'est de savoir est-ce que ça va durer dans le contexte budgétaire du gouvernement canadien. En dépit de l'accroissement de la fiscalité, le gouvernement du Québec a été également obligé, dans le fond, de recourir abondamment au déficit budgétaire. Si, du début de la Révolution tranquille jusqu'au tour du milieu des années 70, le déficit budgétaire était grosso modo de 1 % du PIB, rapidement, la situation se détériore et, durant toutes les années 80, bon an, mal an, en situation moyenne, on est à autour de 3 % de déficit budgétaire en proportion du PIB, avec des pointes en 81, en 85 et en 95, avec des pointes de plus de 3 %. Donc, si vous voyez la durée des déficits budgétaires au Québec, ça nous montre la difficulté d'arriver à un budget équilibré. C'est dans cette perspective que l'Assemblée nationale a adopté la loi sur l'équilibre budgétaire, adoptée, dans le fond, à l'unanimité, faut-il le rappeler. Et là, rapidement, adopté en 1996 avec un effet progressif qui devait entrer pleinement en application au tournant de 2000, et on s'aperçoit rapidement que ça a eu des effets bénéfiques. Et on le voit, l'équilibre budgétaire a été grosso modo atteint de 1999 à 2008. Sur une base comparative, on peut également constater sur cette image que les déficits budgétaires au Québec étaient plus aigus que dans la moyenne des autres provinces canadiennes. Déficit budgétaire plus important, ça a eu pour répercussion d'alourdir la dette. La dette financière nette du Québec, en proportion du PIB, connaît une progression constante de la Révolution tranquille des années 60 jusqu'en 1998. Donc, là, on constate que dès le retour à l'équilibre budgétaire, malgré que la dette en absolu continue de s'accroître pour tenir compte des nouveaux investissements gouvernementaux, son poids relatif, lui, en proportion de notre richesse, connaît une décroissance. Par contre, si on regarde la décroissance en comparaison avec les autres provinces canadiennes, on constate que la décroissance n'est pas aussi marquée qu'ailleurs. Puis, on peut également conclure ici que, je ne veux pas faire le débat sur la dette, mais sans être catastrophique, elle est plus élevée qu'ailleurs, et juste ça, ça devrait insister, dans le fond, à la plus grande des prudences. Conséquence d'un endettement plus élevé, le Québec consacre un effort plus important au paiement sur les intérêts sur la dette, il va de soi. Encore une fois, on constate que lorsque le budget a été rééquilibré autour de 1998, le poids du service de la dette a tendance à diminuer. Évidemment, ça coïncide également avec une diminution des taux d'intérêt, mais force est de constater que son poids est en diminution. Il est possible, à partir de ces images, dans le fond, de tirer trois grandes phases des finances publiques québécoises. L'analyse suggère une certaine viabilité budgétaire de 1960 jusqu'au milieu des années 70, où on arrive à concilier augmentation de dépenses avec augmentation de fiscalité et de transferts fédéraux. Par la suite, on arrive à une deuxième phase des finances publiques qui sont une dégradation, où on observe que on n'est plus capable de couvrir l'augmentation des dépenses publiques par des augmentations d'impôts, alors que les transferts fédéraux connaissent peu à peu une diminution relative. Et dans ce contexte-là, les déficits budgétaires augmentent et entraînent dans leur sillage, on l'a vu, une augmentation rapide de l'endettement et du coût des intérêts sur cette dette-là. Enfin, apparaît la troisième phase, on l'a vu avec la loi sur l'équilibre budgétaire, il y a eu un assainissement des finances publiques, ce qui a permis, dans le fond, une stabilisation et même une réduction du poids de la dette. En plus d'avoir un budget équilibré, le simple fait que le budget soit équilibré a permis de réduire l'importance relative de notre endettement. Et ça, je vais vous en reparler plus tard, mais on doit voir ça comme une bonne chose. Donc, ce n'est pas un crime de voir le poids de sa dette diminuer. Quatorze ans après l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale de la loi sur l'équilibre budgétaire, force est de constater qu'elle a eu, cette loi-là, des répercussions positives. D'abord, elle a mis fin à 40 ans de déficit budgétaire chronique. Donc, de 58-59 jusqu'à 98-99, il n'y a pas eu une année où on a été capable d'arriver avec l'équilibre budgétaire. Puis là, par la suite, on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé une fois que cette loi-là a été mise en œuvre du côté des dépenses publiques. Évidemment, on pourrait reprocher dans la précipitation d'avoir fait certains excès, notamment les mises à la retraite dans le système de santé. Mais globalement, quand on prend le recul nécessaire, puis on dit, on est rendu avec mes données en 2007, on les compare avec l'année de promulgation de la loi sur l'équilibre budgétaire, force est de constater que le poids des dépenses publiques au Québec a augmenté malgré l'application de cette loi sur l'équilibre budgétaire-là. Donc, son application ne s'est pas fait au prix d'un saccage des services publics. En fait, c'est plutôt le contraire. Ça a permis leur pérennisation autant soit peu. En ce qui concerne l'endettement, comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où on atteint l'équilibre budgétaire, le poids relatif de la dette financière nette du Québec a commencé à diminuer, alors que ça avait été en constante augmentation de 1960 jusqu'à la fin des années 90. Même chose du côté des intérêts sur la dette. Et là, on pourrait rajouter une troisième notion, qui est la perception des autres à l'égard de notre endettement, qui est la cote de crédit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant l'application de la loi sur l'équilibre budgétaire, il est crucial de savoir que l'agence Moody's avait décoté deux fois la dette du Québec. Il avait décoté une fois en 93, il avait décoté de nouveau en 95 et menaçait de le faire en 96, ce qui avait conduit, dans le fond, la crainte d'une nouvelle décote avait conduit à un fameux voyage secret, qui n'est plus secret aujourd'hui, mais un fameux voyage secret de Lucien Bouchard pour demander aux agences de crédit de ne pas décoter la dette du Québec qui était pour faire les gestes qui s'imposent. Donc, une fois la loi sur l'équilibre budgétaire mise en place, la cote de crédit du Québec par Moody's a cessé de diminuer, cessé sa descente, et a même regrimpé trois fois. Une fois en 2001 et deux fois en 2006. Donc, de toute évidence, aux yeux des agences de crédit, les finances publiques du Québec se sont assainies. Juste pour dire, une manière sûre de ne pas se faire dicter notre conduite par les financiers de New York, ça consiste, dans le fond, à avoir des finances publiques saines. Si on veut être maître de nos finances publiques, il ne faut pas avoir une épée de Damoclès comme ça, comme on a déjà eu dans les années 90. C'est sur cette base, dans le fond, qu'il faut se poser la question suivante. Comment assurer, dans le fond, la viabilité de nos finances publiques pour les 50 prochaines années? Contrairement à il y a 50 ans, ce qu'il faut constater, c'est que la marge de manœuvre pour faire les gestes nécessaires est beaucoup plus mince. Donc, ça va forcer les décideurs à faire des choix politiques beaucoup plus éclairés, je le crois, en matière de finances publiques. Sur le plan de la démographie, il y a un contraste qui est assez frappant, c'est que nous ne sommes pas du tout dans la même situation que ce qui prévalait en 1960. En 1960, la population québécoise était jeune et nombreuse à entrer sur le marché du travail, alors que la situation actuelle est celle où les baby boomers s'apprêtent, si ce n'est déjà fait, à prendre leur retraite et ainsi à mettre fin à une forte croissance du bassin de travailleurs potentiels. Ici, le tableau le montre assez bien. La population des 15-64 ans, qui forme le bassin principal de travailleurs potentiels, a fortement cru depuis 1970. Depuis 1970, on a rajouté 1,5 million de personnes âgées entre 15 et 64 ans. Si on regarde dans les 50 prochaines années, on n'aura aucune croissance, on va perdre 140 000 personnes du même groupe d'âge. Donc, c'est là que doit se faire le focus démographique. On parle du vieillissement de la population, mais ce n'est pas tant le vieillissement qui est important. Comme quoi que les 15-64 ans, contrairement aux 50 dernières années, il n'y aura plus aucune croissance de ce bassin de travailleurs potentiels-là. Définitivement, ça va avoir des effets sur la croissance économique. Ce qui est encore plus marquant, c'est que ce changement-là dans le profil démographique du Québec est une situation particulière lorsqu'on se compare aux autres provinces canadiennes. Alors nous, là, j'ai pris un échantillon plus court, j'ai regardé dans 25 ans, que va se passer avec le groupe des 15-64 ans? Bon, on va être grosso modo 3 % moins nombreux en 2035 qu'en 2010. On prend l'ensemble des autres provinces canadiennes pour dire, eux, comment ils vivent ça les 25 prochaines années? Bien, leur groupe des 15-64 ans va être 15 % plus nombreux qu'il ne l'est actuellement. Et donc, ça veut dire qu'eux, ils vont avoir un marché du travail qui va s'épanouir. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont pouvoir travailler. Nous, on va devoir conjuguer avec une contraction du bassin de travailleurs potentiels. Bon. Là, quand même, si le nombre des 15-64 ans diminue, ça ne veut pas nécessairement dire que le nombre d'emplois va connaître le même sort. Il est possible que le nombre d'emplois augmente. Par contre, si les taux d'emploi que nous connaissons actuellement restent les mêmes d'ici les prochaines années, ne changent pas, donc on n'améliore pas nos taux d'emploi, on va se retrouver, la petite zone picotée nous montre, on va se retrouver avec le même nombre d'emplois en 2035 que nous avions en 2008. Donc, il n'y aurait eu aucune création d'emplois. Puis plus tard, vous allez voir, il y a un effet donc potentiel sur la croissance économique. Cependant, il est possible de faire augmenter cette participation-là au marché du travail. Il y a certains groupes d'âge où la participation est moindre, où on est encore en mode rattrapage, donc possible d'augmenter les taux d'emploi. À titre indicatif, du côté des 55-69 ans, nos taux d'emploi sont nettement inférieurs à ceux observés dans les autres provinces canadiennes. Du côté du taux d'emploi des femmes âgées de 25 à 54 ans, les taux d'emploi ont fortement augmenté au cours des 20 dernières années, puis même au cours des 10 dernières. Mais il est possible aussi que ces taux-là continuent d'augmenter par une scolarité accrue et par les nouvelles politiques familiales que le Québec a mises en place. Si le taux d'emploi des femmes des 25 à 54 ans passait de 78 % qu'il était en 2008 à 85 % en 2035, nous aurions à ce moment-là 102 000 femmes de plus sur le marché du travail. Je vais juste vous donner deux petits exemples possibles. L'autre est du côté des 55-69 ans, qu'on pourrait diviser en trois groupes, les plus jeunes, les 55-59, les 60-64, les plus vieux, les 65-69. Si on faisait passer progressivement le taux d'emploi de ces groupes-là et qu'on nous ramassions en 2035 avec 1 sur 2 qui travaille, plutôt que les taux d'emploi respectifs actuels, bien c'est 137 000 personnes de plus de ce groupe d'âge-là que nous allons avoir sur le marché du travail. Donc, rapidement, on s'aperçoit avec deux exemples qu'il est possible de rajouter 250 000 de travailleurs au Québec en faisant augmenter les taux d'emploi. Dans un tel contexte, considérant que le groupe des 15-64 ans n'augmentera pas, il serait important de développer une politique de valorisation de l'emploi. Je pense que ça va se faire. Transition démographique attendue, ça va avoir nécessairement un impact sur la croissance économique. Donc, moins de travailleurs qui rentrent sur le marché du travail, ça va vouloir dire moins de croissance économique. Et si on observe les 25 dernières années, on s'aperçoit que la croissance des recettes fiscales du gouvernement du Québec augmente au même rythme que la croissance économique. C'est ce qu'on appelle l'élasticité fiscale. C'est 1 pour 1. 1 % de croissance économique, ça veut dire qu'il rentre 1 % de recettes fiscales sans changer l'impôt. Et donc, si la croissance économique ralentit, ça veut dire que les revenus de l'État vont croître plus lentement. Ils vont augmenter, mais moins vite. Pendant ce temps-là, avec le vieillissement, il y a des chances qu'on ait des pressions additionnelles sur les dépenses publiques. Et donc là, on voit tout de suite arriver des dépenses publiques qui vont augmenter plus rapidement que nos revenus et encore une fois, l'équilibre budgétaire qui va être difficile à faire. Dans un tel contexte, pour assurer la viabilité budgétaire, la seule garantie, dans le fond, la seule voie envisageable, ça reste l'application, le maintien de l'application de la loi sur l'équilibre budgétaire. Et ça va vouloir dire qu'il va falloir réussir à faire croître nos dépenses publiques au même rythme que nos revenus. Inutile de dire que juste cette adéquation-là, ça va demander un effort public important. Et donc, pour ceux qui regardent aller les choses puis disent retrouver l'équilibre budgétaire jusqu'en 2013-2014, c'est pas de retrouver l'équilibre budgétaire en 2013-2014 qui est difficile. Ça va être de le maintenir par la suite. Et donc, si on fait un exercice puis on laisse aller les choses, puis les dépenses publiques au Québec augmentent au même rythme qu'il a augmenté dans les dernières années, puis qu'on fait aucun changement dans la fiscalité, bien, le déficit budgétaire va réapparaître. Il va réapparaître et si on laisse aller les choses, en 2030, on aura un déficit sans récession beaucoup plus important que nous avons eu en 2009-10 alors que nous étions en récession. Et donc, l'exercice d'appariement des revenus et des dépenses va être extrêmement difficile à faire, mais il faut le faire, c'est la meilleure garantie pour pérenniser nos services publics. Si l'État va avoir les moyens d'intervenir lorsque l'économie perd pied, comme ce fut le cas en 2008-2009, il doit, dans le fond, minimalement et rigoureusement atteindre l'équilibre budgétaire en période de prospérité économique. Donc, si on atteint l'équilibre budgétaire en période de prospérité économique, le poids de la dette diminue, puis quand ça va mal, on emprunte pour relancer l'économie, le poids de la dette réaugmente. Mais il faut que quand ça va bien, on atteigne l'équilibre budgétaire pour réduire le poids de l'endettement. Et donc, la loi sur l'équilibre budgétaire doit être érigée, dans le fond, en garde-fou contre les dérives budgétaires potentielles. Puis pourquoi je vous dis ça? Bien, dans le fond, c'est seules des finances publiques saines rendent possible le progrès social. Essayez de vous rappeler les dernières fois où le gouvernement du Québec a mis en place des nouveaux régimes publics. À chaque fois, ça a été fait quand les finances publiques étaient saines. Quand le gouvernement du Québec court après sa queue pour équilibrer son budget, il n'y a pas de nouveau programme public qui voit le jour. Donc, en terminant, les défis qui sont posés par la transition démographique appellent au lancement de nouveaux grands chantiers pour essayer d'imaginer des solutions durables. Des solutions durables pour mieux encourager l'éducation, donc travailler sur le décrochage scolaire notamment, mieux valoriser le travail, valorisation de l'emploi, comme j'en ai parlé plus tôt, mieux financer nos services publics, et inutile de dire que j'ai la santé également en tête à cet égard-là, mieux dépenser l'argent public, inutile de vous dire ce que j'ai en tête en ce moment-ci, mieux accueillir nos nouveaux arrivants, mieux prendre soin des vulnérables, mieux assurer l'équité entre les générations, mieux concilier notre développement social à notre prospérité économique. Puis en bout de piste, si on a eu la chance aujourd'hui d'analyser la Révolution tranquille 50 ans plus tard, il faut, en lançant ces grands chantiers-là, se demander comment dans 50 ans nous allons être évalués. Et dans ce cas-là, agir est notre seule option, puis je crois que c'est possible de le faire. Alors, merci.
Merci beaucoup, M. Godbout. Sans plus tarder, j'invite donc à prendre la parole Mme Monique Jérôme-Forgette.
Est-ce que je peux avoir un autre verre, s'il vous plaît? Alors, bonsoir tout le monde, Monsieur le recteur, Monsieur le directeur. D'abord, je vous trouve très brave de vous être déplacé aujourd'hui. Je dois dire que je m'attendais à un moment donné presque que ce soit annulé. Le titre de mon propos ce soir, c'est « Un héritage épuisé et paralysant ». Épuisé et paralysant parce que vous venez d'entendre Luc Godbout nous dresser un tableau quand même important, révélateur et troublant. Troublant parce que on se rend compte que la situation semble vouloir se détériorer. Moi, ce que je vais faire ce soir, c'est comme c'est la dernière conférence, et donc je vais passer un peu en revue ce qu'on a fait lors de la Révolution tranquille pour ensuite nous dire regardez qu'est-ce qu'on a appris avec cette Révolution tranquille, quels sont les comportements que nous avons eus à titre de citoyens de gouvernement, et par conséquent, quelles sont les avenues de solution. Et je voyais la conclusion, de Luc Godbout, « Mieux faire ceci, mieux faire cela, mieux faire... » Vous avez vu la liste? Bien, comment on fait ça? Et je vais essayer de l'aborder. Comment est-ce qu'on s'y prend? Bon, est-ce qu'on a discuté durant plusieurs conférences, et effectivement, je pense que cette démarche d'avoir invité autant d'académiques, de penseurs du Québec, je pense que ça a révélé, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que la Révolution tranquille, c'est une révolution. C'est une révolution parce que il y a eu des changements tellement importants et tellement rapides. Moi, je vais vous dire, je vais examiner trois volets. D'abord, je vais me poser la question, nous sommes-nous trompés? Est-ce que durant toutes ces démarches, on s'est trompé durant cette période d'ébullition au Québec? Deuxième volet, les valeurs que nous avons adoptées, épousées et que nous maintenons encore aujourd'hui. Et finalement, certaines pistes de solutions. Premièrement, quels ont été ces choix? Il y a eu une transformation entre 1955 et, je fais toujours la blague, entre 1955 et 1959. J'exagère à peine, mais j'exagère un peu. Une transformation au niveau de l'importance de l'Église. En 1955, tout le monde allait à l'Église. Tout le monde, la majorité des gens, des femmes, se mariaient vierges. Avoir un enfant illégitime, c'était un péché. On le cachait. Les gens payaient une place, un banc pour la messe de minuit pour avoir sa place. Et donc, vous voyez l'importance de l'Église. En 1960, tout à coup, il y a un virage draconien. Les églises se vident. Et donc, les églises, en se vidant, il se passe quelque chose au niveau de l'État. Il se passe quelque chose au niveau de l'État. L'État occupe la place qui avait été occupée beaucoup par l'Église. Vous avez également le bassin des vocations religieuses. N'est-ce pas les collèges classiques que moi, quand j'étais jeune j'avais des amis hommes et qui allaient au collège Sainte-Marie ou qui allaient au Brébeuf, il y avait toujours deux, trois copains dans la classe qui voulaient devenir prêtres. Ça s'est terminé, ça s'est asséché complètement. Ce bassin de vocation religieuse. Est arrivée, bien sûr, la pilule. On est passé de 4 enfants par famille à 2 enfants et même pas 2 enfants par famille. Et, bien sûr, l'Église perd son attrait et l'Église, bien sûr, se vide et l'État occupe la place. Vous avez au Québec, à ce moment-là, je pense qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé, un moment d'ébullition. D'ailleurs, c'est amusant parce que moi, en 1960, je suis allée en Angleterre, j'ai passé de 60 à 65 en Angleterre, et il fallait absolument qu'on revienne au Québec parce que, au niveau de l'État, tout se passait au gouvernement. C'était très, très bien vu que d'aller travailler au gouvernement parce que c'était là qu'arrivaient tous les changements importants. Alors, vous avez eu sur une période, n'est-ce pas, la création de l'assurance maladie, l'assurance hospitalisation, vous avez eu la Caisse de dépôt, la GF, l'EREA, Hydro-Québec, la nationalisation d'Hydro-Québec, l'aide juridique, l'assurance maladie, et plus récemment, bien sûr, l'assurance médicaments, l'assurance parentale, les garderies. Alors, vous voyez qu'il y a eu une foule de décisions qui ont été prises durant cette période-là, qui démontrait beaucoup, beaucoup d'effervescence. Comme je vous disais, il se passait au gouvernement énormément de choses. Il y avait des gens très qualifiés qui arrivaient d'Europe, des États-Unis, qui s'en venaient dans la fonction publique. Et comme l'a bien expliqué Luc Godbout juste avant moi, bien sûr, à cette époque-là, il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de dette, et par conséquent, il y a de la croissance économique, et vous avez, au niveau démographique, évidemment, il y avait ces familles de 4 enfants qui avaient été des familles de 4-5 enfants et qui arrivaient en âge de travailler, donc il y avait énormément de main-d'œuvre. C'était l'époque où vous aviez 7 travailleurs pour un retraité, donc il y avait énormément d'activités, de potentiel. Et, bien sûr, le Québec a embarqué avec enthousiasme. La dette du Québec, à ce moment-là, est de 0 % du PIB et, aujourd'hui, elle représente 25 % du PIB. Donc, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Luc en a parlé, je lisais la communication de Pierre Fortin également. Les dépenses qui représentaient 13 % du produit intérieur brut représentent aujourd'hui 28 % du produit intérieur brut. Donc, vous avez tout à coup un État qui est beaucoup plus présent dans beaucoup plus de secteurs. J'ai mentionné des secteurs, évidemment, reliés à la santé, l'éducation, etc. Mais vous avez également, sur le plan économique, une présence accrue de l'État. Donc, ce qui arrive au niveau de toutes ces années, c'est que l'écart entre nous, et je pense que Luc Godbout l'a bien illustré plus tôt, un écart entre l'importance de l'État au Québec et l'importance de l'État ailleurs au Canada, nos voisins, bien sûr, de l'Ontario, mais ailleurs en Amérique du Nord. Et donc, vous avez là un changement, une caractéristique qui se fait et, je dirais, qui s'installe dans nos valeurs et dans nos mœurs. S'endetter, c'était bien sûr légitime à un certain moment donné. Quand vous créez de nouvelles écoles, vous bâtissez des universités, vous mettez en place un régime de pension au niveau de l'équité intergénérationnelle, c'est légitime. Ce qui est moins légitime par ailleurs, il y en a d'autres qui en ont parlé avant moi aujourd'hui, c'est quand tout à coup les déficits se représentent, c'est pour ce qu'on appelait communément l'épicerie. Autrement dit, ce qu'on fait pendant plusieurs années, c'est qu'on paie $1 d'impôt. Je vais donner ça à titre d'image, simplement à titre d'image. C'est pas exact tout à fait. On paye $1 d'impôt et on se paye $2 de service pendant longtemps. J'exagère les chiffres, mais je veux juste vous illustrer. D'où le mécontentement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on doit rembourser, parce qu'on doit payer en totalité les dépenses que nous encourons, parce qu'il faut rencontrer les coûts rattachés à la dette, aujourd'hui, on fait le contraire. On doit payer $2 et avoir moins de services. Peut-être pas $1, mais certainement moins de services. Donc, vous voyez tout à coup un débalancement au niveau de notre société, au niveau de notre perception, qui est réelle. Quand les gens disent « on a l'impression de ne pas en avoir pour notre argent », bien, c'est un peu ça. C'est que pendant longtemps, on avait des services, mais on ne payait pas la totalité de ce qu'on pensait, on estimait vouloir se payer. Donc, on le mettait aux générations futures. Par ailleurs, la Révolution tranquille, elle a fait des choses qui étaient excellentes. Hein? On a éduqué nos jeunes. Et j'étais fascinée en lisant, moi aussi, des documents, parce que de préparer cette conférence, ça nous force à retourner en arrière, donc il y a des bénéfices. C'était l'importance de l'éducation durant les années 60. Si vous faisiez un sondage au Québec à cette époque-là, quelle était la première priorité du Québec? Pour plus de 50 % des Québécois, c'était l'éducation. Donc, Gérin Lajoie avait réussi à transmettre à nous tous et toutes l'importance d'être éduqués. Donc, on a fait un virage au niveau de l'éducation qui a été très bénéfique. D'ailleurs, le Québec, c'est au Québec que vous avez connu la plus forte augmentation, dans le fond, d'augmentation au niveau de l'éducation. Je dirais également que le Québec a très bien fait parce que aujourd'hui, je lisais d'ailleurs ce matin que le Canada s'était déclassé un peu sur les comparaisons internationales, mais je sais qu'avant ce matin, le Québec, en termes de succès au niveau des mathématiques et des sciences, on arrivait troisième. Donc, on a dû faire des choses qui étaient bonnes. Par exemple, on arrivait après la Finlande et la Corée, mais après ça, c'était le Québec. Donc, on a fait des bonnes choses au Québec à cause de cette révolution tranquille. Bien sûr, il y a là où le bât blesse, le décrochage scolaire, qui, bien sûr, depuis 5 ans, je dirais, augmente. Et là, ce que je trouve le plus troublant dans le décrochage scolaire, c'est que c'est devenu presque un phénomène social acceptable. Un jeune qui ne termine pas, qui veut prendre une année de repos, faire autre chose, c'est devenu acceptable. D'ailleurs, pour moi, Cette statistique du décrochage scolaire est un peu faux à cause de ce phénomène-là. Ce qui est important, c'est de savoir le nombre de personnes qui terminent leur secondaire et ne le font pas en 5 ans. Il y en a plusieurs qui le font en 6 ans et 7 ans. Par conséquent, vous avez là un phénomène du décrochage. Vous avez un autre phénomène également. On a, au niveau universitaire, une lacune. Par exemple, des jeunes qui complètent un diplôme universitaire, dans les pays de l'OCDE, c'est 37 %. Aux États-Unis, c'est 35 %. En Ontario, c'est 30 % et au Québec, 25 %. Je suis tout à fait d'accord avec les propos que tenait Luc Godbout juste avant moi, à l'effet que l'éducation, c'est probablement là qu'est le nerf de la guerre dans la démarche que nous allons devoir confronter. Donc, je dirais que globalement, à part au niveau de l'éducation, au niveau universitaire, parce qu'au niveau postsecondaire, si on fait tous les niveaux postsecondaires avec le cégep, on se compare à d'autres provinces. Mais au niveau universitaire, là, il y a vraiment une lacune. Avec les années, les écoles se structurent. Et là, je vais accrocher probablement un certain mécontentement, mais je vais dire ceci, c'est que là, on syndicalise les écoles de façon importante. Et moi, la dernière convention collective que j'ai signée, par conséquent, j'y ai participé. Je ne fais pas un reproche là aux gens qui sont dans ces situations-là, mais c'est une convention collective de 500 articles, 274 pages. Un article a notamment 8 pages. Alors, vous imaginez que dans nos écoles, nous avons un carcan extrêmement rigide. Et si vous allez voir le site d'un nommé Jeffrey Canada, qui a fait une révolution dans Harlem aux États-Unis, vous allez vous rendre compte qu'un des volets pour le succès de ces écoles, parce que ces écoles, ce sont des jeunes noirs de Harlem, où 82 % de ces étudiants vont à l'université, vous avez bien compris, 82 %. C'est donc une révolution aux États-Unis. D'ailleurs, M. Obama a décidé, le président des États-Unis a décidé d'élargir ce programme à plus d'écoles, à plus de secteurs, à cause du succès que ça remportait. Bien, vous voyez que dans ces écoles, ils avaient enlevé le carcan et donné le pouvoir aux enseignants. Le pouvoir aux enseignants dans l'école, le pouvoir aux parents, le pouvoir à savoir que les mères et les pères doivent aller visiter l'école, savoir que font leurs enfants à l'école, est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils échouent. Donc, un lien très étroit entre l'enfant, le parent et l'enseignant. Et ça, il y a beaucoup de littérature dans ça. Je suis sûre qu'il y a beaucoup plus d'experts dans la salle que moi. Mais quand j'ai lu sur ça, on parlait de l'éthos d'une école, c'est-à-dire son sentiment d'importance, son sentiment de contrôle, le désir de réussir, le désir que chaque enfant doit réussir dans sa classe. Et ça, les enseignants l'ont. Les enseignants l'ont. Moi, je ne blâme pas du tout les enseignants. Ce que je dis, par ailleurs, j'arriverai avec une recommandation à la fin, mais je pense qu'il y a là un problème aujourd'hui au niveau de nos écoles. Ce carcan est très, très, très important. Au niveau de la démographie, Luc en a parlé plus tôt, les 15 à 64 ans, il y a une diminution de 3 % au Québec. J'avais des chiffres un peu différents. J'avais l'Ontario, moi, j'avais pas l'ensemble du Canada. Une augmentation d'ici 15-20 ans en Ontario de 10 %. et aux États-Unis, une augmentation de 9 %. Donc, vous voyez qu'au niveau de la démographie, vous vous rappelez tantôt, je vous racontais qu'il y avait déjà 7 travailleurs par retraité. Là, aujourd'hui, savez-vous que nous sommes rendus à 3 travailleurs par retraité et que nous nous dirigeons très prochainement à 2 travailleurs par retraité? Alors, vous voyez l'impact de la société, là, l'impact de ce que ça va représenter pour ceux qui travaillent, ceux qui vont travailler, nos jeunes, ceux que l'UQAM forme aujourd'hui, qui, dans le fond, vont devoir prendre la relève. Donc, notre population diminue et également la population du Québec des 55 à 65 ans travaille moins au Québec qu'ailleurs. Au Québec, cette cohorte d'âge travaille à raison de 52 %. Dans le reste du Canada, c'est 60 %. Par conséquent, là, il y a une ouverture. Moi, j'ai toujours dit qu'il va falloir travailler jusqu'à l'âge de 75 ans. Et c'est pourquoi je mets 75 ans, c'est pas sorcier, parce que j'en ai 70 et que j'ai pas l'intention de prendre ma retraite, bien que je sois retraitée. Mais tout ça pour dire qu'on va devoir travailler plus longtemps pour ne pas être seulement 2 travailleurs pour subvenir à 1 retraité. Vous avez également l'État qui a joué un rôle très important au niveau des subventions des entreprises. Il me reste combien de temps, madame? 5 minutes, ouf, là. Résultat des entreprises. Et donc, vous avez au Québec, n'est-ce pas, on a réussi quand même à contrôler le chômage, mais même les entreprises sont là à nos portes constamment pour avoir accès à des subventions, etc. Donc, le Québec a quand même réussi à faire beaucoup, mais il est face à des défis importants. Défis que Luc Godbout nous a illustrés en voyant l'écart entre les revenus et les dépenses. Une société où les dépenses de santé augmentent de 6 % par année, qui représente 45 % du budget, alors que l'économie augmente de 2 %, ça ne prend pas des doctorats en quoi que ce soit pour savoir qu'il va se passer quelque chose. C'est clair qu'il va falloir qu'on pose des gestes importants. Et bien sûr, on est porté à dire qu'on augmente la taxe aux riches. Je vais vous citer ce que disait Pierre Fortin. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais on est riche en pauvre et pauvre en riche au Québec. Et par conséquent, je pense que la solution à l'effet que le 10 % va payer 70 % des impôts, je pense que là, il y a peut-être un problème. Alors, il y a des pistes de solutions et je vais les aborder très brièvement. De la flexibilité. Et bien sûr, de la sécurité. Le régime américain ne nous plaît pas. Quand on voit des couples aujourd'hui, d'un certain âge, vivre dans une totale insécurité, ça ne fait pas partie de nos valeurs. On ne veut pas de ça. Mais par ailleurs, je vous parlais d'une convention collective où il y a 500 articles, il faudra plus de souplesse. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas syndiqués. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de souplesse dans l'environnement où on éduque nos enfants. Va falloir que ce soit également un peu notre mantra au niveau de la décentralisation. Centraliser nos décisions à Québec pour un hôpital qui est au lac Saint-Jean versus un hôpital qui est à Montréal, ça ne tient pas debout. Il va falloir qu'on démontre une plus grande flexibilité au niveau de la décentralisation. Va falloir qu'au niveau de l'éducation, bien sûr, s'inspirer des meilleures pratiques. Je prends position, bien sûr, pour la démarche actuelle. Il va falloir, effectivement, que les frais de scolarité soient augmentés. Alors, je ne serai pas très populaire dans cette salle aujourd'hui. Et, bien sûr, nous assurer d'augmenter la productivité du Québec. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout jeter par-dessus bord. Moi, j'ai dit, justement, je ne suis pas de l'école du Big Bang, où tout à coup, on vire à 180 degrés et on ne fait plus ce que l'on faisait et on met de côté nos valeurs. Mais je pense que là, pour arriver à apporter des changements dans la société actuelle, avec des médias qui sont là 24 heures par jour, 7 jours par semaine et qui couvrent la nouvelle de minute en minute, va falloir qu'on se serre les coudes au Québec, comme on l'a déjà fait, et que la démarche soit faite de façon plus solidaire et plus collégiale. Les décisions vont être difficiles à prendre. Les décisions vont être hasardeuses. Les décisions vont faire mal. Mais il va falloir les prendre parce que nous voulons réussir la démarche, arriver au déficit zéro. Mais comme l'a bien dit Luc Godbout, l'a très bien expliqué, ce n'est pas tout d'arriver au déficit zéro en 2013. Il faut maintenir cet équilibre parce que nous sommes dans un monde, quand on dit global, maintenant les gens votent avec leurs pieds facilement. Hein? Ils quittent facilement. Nos jeunes peuvent s'expatrier. Aujourd'hui, tous les jeunes ont fait un voyage à l'extérieur et par conséquent peuvent s'expatrier. Par conséquent, pour moi, je pense que cette démarche aujourd'hui de la LUCAM et de la Grande Bibliothèque de reviser nos façons de faire depuis 40 ans, je pense que c'était un exercice extrêmement salutaire. Mais moi, je pense que je vous invite également à examiner des débats où on va se repositionner et se questionner. Vous savez, moi, je me rappelle en 96, je pense, quand Paul Martin a décidé de couper le déficit fédéral, il avait organisé des rencontres partout à travers le Canada, ce qu'il appelait les « town hall meetings », et donc pour essayer d'amener les gens à être sensibilisés davantage aux défis que l'on devait rencontrer. Là, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'on se tienne par la main, que tout le monde embarque, que la nouvelle du jour ne soit pas exclusivement la nouvelle du jour, mais qu'au contraire, qu'on ait également accès à de la nouvelle qui va nous amener à porter des pas nouveaux vers un Québec solide, fort, avec des valeurs qui sont les nôtres et qu'on n'est pas obligé de jeter par-dessus bord. Excusez-moi, je cherchais mon mot. Alors, merci beaucoup de votre attention. J'ai fini mon temps par avance. Oui, d'accord.
Monsieur Godbout, Madame Jérôme Forgette sont disponibles pour une période de questions. Je vous invite à vous approcher des micros et à vous identifier et, bien sûr, à poser une vraie question plutôt que de faire un monologue inspiré. Monsieur.
Oui. Je vais attendre que.
Oui.
Ah. Alors, apparemment que j'étais privée de 30 secondes, monsieur.
Bon.
Oh, j'en ai 30 de trop, pardon.
Bon. On vous écoute, monsieur.
Oui, mon nom est Raymond Panton. Je m'adresse à Mme Forgette. Pensez-vous qu'on devrait abolir les commissions scolaires, étant donné que vous parliez tantôt qu'aux États-Unis, on donnait plus de pouvoir aux écoles? C'est la question, la première question.
Bien, écoutez, c'est une excellente question. C'est très embarrassant pour moi parce que mon gouvernement a pris position pour les commissions scolaires quand j'étais là. Alors, vous imaginez que ça me met dans une position embarrassante. Et comme je ne vais pas jouer à la belle-mère, je vais répondre à votre question, puis là, je vais vous le dire de façon détournée. Okay? Mais je pense qu'on devrait au moins faire ce qu'ils font aux États-Unis, des projets pilotes où il y a plus d'autonomie dans les écoles, et tester cette hypothèse. Je pense qu'il y a déjà des écoles qui offrent des programmes particuliers, mais je pense qu'on devrait tenter des expériences un peu partout pour voir finalement l'implication additionnelle, une implication additionnelle des enseignants et des parents. Moi, je crois beaucoup là, que l'idée d'avoir un lien presque ombilical. Parce que là, dans le moment, les parents se sentent complètement démunis. Plus souvent qu'autrement, ils ne savent pas ce que leurs enfants font et ils ne comprennent plus les nouvelles façons de faire. Est-ce que je parle trop longtemps, monsieur?
Non.
Mais est-ce qu'on devrait les abolir, les commissions?
Bien, c'est ça, je ne vous ai pas répondu, ce n'est pas par hasard.
Vous aviez une autre question?
Oui. On parlait aussi du système de santé qui coûte cher. Est-ce qu'il y aurait une grosse économie à faire en informatisant le système de santé? On a essayé là dernièrement pour les personnes âgées, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a des expériences ailleurs qui prouvent qu'un système informatisé coupe les dépenses?
C'est clair qu'un système informatisé coupe les dépenses. Ne serait-ce que des tests qui, au lieu d'être transmis dans des enveloppes, transportés d'un étage à un autre étage, et que vous allez simplement sur l'ordinateur, qui se fait beaucoup dans plusieurs hôpitaux en passant. Déjà, là, les médecins, souvent, vont sur l'ordinateur pour avoir les résultats que vous avez passés. Donc, il y a énormément d'économies. Le problème d'un système informatique au niveau de la santé, c'est l'envergure du système. C'est ça, c'était un problème en Angleterre d'informatiser. Alors, on y va par établissement, on essaie de regrouper des établissements entre eux, mais il y a un problème à cause de l'envergure de toutes les données qu'on peut être capable d'entrer dans un système informatique.
Il y aurait une dernière question. Le CHUM anglophone et francophone, on dirait que l'anglophone avance plus vite, il n'y a jamais d'accrochage, puis du côté francophone, ça accroche toujours. Est-ce que c'est vrai et pourquoi?
Est-ce que vous permettez de ne pas répondre à votre question? Tiens, Luc, prends-la dedans, celle-là.
Pas celle-là, mais l'autre d'avant, par contre, sur l'informatisation, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Parce que je n'ai pas d'opinion sur le CHUM. Je n'ai pas de compétences pour répondre à ça, à part qu'on semble avoir mis énormément de temps à choisir l'endroit là, pendant que le CUSUM...
C'est à Longueuil. Hein?
Mais du côté de l'informatisation de la santé, on voit ça comme un gros morceau à manger, parce qu'on voit ça, on dit « OK, il faudrait que tout soit centralisé puis qu'on puisse communiquer de Val-d'Or jusqu'à Chibougamau au même dossier. » Mais si on commence par petites tranches puis qu'on s'en va sur notre médecin de famille puis qu'on commence à l'informatiser, ça, il y a des études qui ont été faites, je crois que c'est en Norvège ou au Danemark, ils ont fait ça. 98% des médecins de famille sont informatisés. Et donc, le pharmacien peut communiquer, comprendre la prescription et tout ça, là. Puis eux, il y avait une économie d'un milliard qui était faite là-dessus, en plus d'augmenter la productivité du médecin.
Donc, c'est une question de temps. Il va devenir informatisé un jour.
Ouais. Bien, il faudrait. Là, Canadian Tire, pour les pneus, c'est informatisé. Ouais.
Bon. OK, merci.
Il ne faut pas utiliser ça comme exemple. Là. C'est pas mal plus compliqué, le système de santé.
Monsieur.
Oui, bonjour. Je me nomme Jeanette Tilly et j'ai une question à un ou l'autre des conférenciers, peu importe, où vous pourrez répondre tous les deux. J'étais là à la conférence de M. Fortin, puis son jugement justement par rapport au fait qu'au Québec, on soit riche en pauvre et pauvre en riche, me fait beaucoup réfléchir. J'ai pas eu le temps malheureusement d'aller vérifier les informations moi-même, mais je vais prendre pour acquis que son jugement est vrai. Par contre, je me demande par rapport au niveau de la fiscalité, soit de la fiscalité des entreprises ou la taxation du capital ou de l'investissement, surtout depuis 2008 ou depuis la crise financière, je me demandais justement pour régler justement les problèmes de déficit du Québec, est-ce que ce serait pas une avenue qui serait préférable que d'essayer d'imposer justement tout ce capital-là qui finalement fructifie uniquement à des fins personnelles, presque des investisseurs, qui n'est pas un capital qui est utile au développement économique de la production, si on veut, du Québec?
Je te laisse ça, non?
la fiscalité des entreprises au Québec, là, c'est pas juste le capital, c'est pas juste les profits, c'est également la masse salariale. Donc, il y a trois façons d'imposer les entreprises. Les profits qu'elles font, les salaires qu'elles versent, puis le capital qu'elles possèdent. Allez, jusqu'à tout récemment, on utilisait beaucoup la taxe capital. À vrai dire, elle va terminer son application là, au 1er janvier 2011 au Québec. L'Ontario l'a abolie au 1er juillet 2010. Mais nonobstant ça, donc il y a eu une réduction de la taxe capital au Québec, mais le Québec est la seule province à avoir augmenté son impôt provincial sur les profits. L'ensemble des autres provinces canadiennes, là, depuis 2000, là, soit le taux est resté inchangé, soit le taux a diminué. Je ne me souviens pas si c'est Mme Monique Jérôme Forget ou peut-être son prédécesseur, Michel Audet, qui, pour annoncé l'abolition de la taxe capitale ou en fait la réduire plus vite, avait augmenté l'imposition sur les profits. Et là, il n'y a pas de chiffre nécessairement à jour, mais j'ai fait une petite analyse récemment que je crois qu'il va sortir, qu'on va publier jeudi. Lorsqu'on compare la fiscalité des entreprises dans les 10 provinces canadiennes, le Québec arrive avec la plus lourde fiscalité sur les profits provinciales et fédérales mis ensemble là, dans les 10 provinces canadiennes. Donc, on est au-dessus de la moyenne, significativement. Là, j'ose pas avancer de chiffres parce que je ne voudrais pas trop me tromper. Mais on est au-dessus de la moyenne. Même chose à l'égard des impôts sur la masse salariale. Puis, on l'était également à l'égard de la taxe sur le capital. Donc, avec les trois types d'impôts, on était fortement au-dessus de la moyenne. Donc, on l'utilise déjà beaucoup, la fiscalité des entreprises. Faut quand même faire attention, là, parce que ça peut nuire.
Oui, bien, peut-être je fais erreur moi-même ou je me suis mal exprimé. Juste en terminant rapidement, justement, je suis conscient que pour rester productif dans le contexte de mondialisation, il faut essayer d'avoir la fiscalité la plus compétitive possible pour les entreprises. Mais justement, ma question était peut-être plus par rapport au domaine de la finance ou la connaissance que j'en ai. Il semble avoir des sommes énormes qui sont placées dans des fonds qui fructifie et qu'il n'y a aucune redistribution de cette richesse-là qui est faite pour la société.
Dans le fond, là, vous voulez parler, dans le fond, que les plus-values que les individus réalisent sur leur placement à la fin de chaque année?
Ou les entreprises, ou les banques, ou peu importe, là, je ne m'y connais pas suffisamment.
Oui, mais la plupart, c'est fait par les particuliers, dans le fond. Là, ou quand c'est fait pour les entreprises, c'est reversé aux particuliers. Effectivement, les gens disent beaucoup, il y a plein de gains capital qui est réalisé, puis ce gain-là, en plus, est imposé à la moitié du taux. Donc, l'imposition est moitié moindre sur le gain capital. Décision de Paul Martin au gouvernement fédéral et harmonisée au Québec là, au tournant des années 2000. Mais par contre, quand on regarde le gain capital déclaré, là, quand on prend la déclaration d'impôt fédéral ou provincial, là, puis qu'on regarde revenu de salaire, revenu de profession, revenu de ci, revenu de ça, peut-être ça. On regarde le gain en capital, c'est 3 à 4 % des revenus déclarés. Donc, on pourrait bien harmoniser puis dire on va le taxer davantage, mais ça ne changera pas les revenus collectés de manière significative. Le 3 quarts des revenus déclarés dans une déclaration des particuliers, là, c'est le salaire ou revenu de profession, revenu d'entreprise autonome, etc.
D'accord. Puis justement, en terminant très rapidement, vous parlez de revenus déclarés. On l'a vu ces derniers jours avec Tony Accurso.
Je ne parle pas des revenus non déclarés, évidemment.
Est-ce qu'il y a une estimation qui a été faite, j'imagine, par le ministère des Finances ou des revenus des pertes, justement, en évasion fiscale, que ce soit au fédéral ou au provincial?
Bien, écoutez, c'est clair que le ministère des Finances essaie d'évaluer tout le temps ce qu'il estime être des revenus non déclarés. Parce qu'ils ne sont pas déclarés, on ne le sait pas. C'est la logique même. Sauf que on estime, on essaie d'évaluer. Et c'est la raison pour laquelle le ministère du Revenu met des enquêteurs davantage, plus d'enquêteurs, pour essayer d'aller chercher cet argent-là. Mais faut tout simplement qu'on soit vigilant. Maintenant, j'aimerais suivre un peu sur ce que disait Luc. Vous savez, moi, j'ai eu à l'occasion des gens qui m'ont dit, lorsque je rencontrais pour faire le budget, les gens viennent rencontrer la ministre des Finances juste avant le budget pour venir expliquer, dans le fond, des revendications ou des opinions, etc. Et je me rappelle d'un certain groupe que je ne nommerai pas qui me disait, bien, taxer les riches puis taxer les entreprises. Bien, les entreprises, vous savez, ça quitte vite une province. Et il y a même des grandes entreprises québécoises, même de la Beauce, qui l'ont dit publiquement, qu'elles allaient s'installer ailleurs. C'est possible. Donc, les gens ont la possibilité de nos jours. On n'est plus dans un environnement où on dit, bien, moi, j'étais ici. Moi, quand je suis revenue là, d'Angleterre, fallait que je revienne au Québec. Fallait que je revienne au Québec. On revenait au Québec. On était chez nous. Mais aujourd'hui, là, les gens vont où ça leur tente et où c'est le mieux pour eux. Alors, c'est ça. On doit toujours regarder qu'est-ce qui se passe chez notre voisin et chez nos voisins à proximité. Et même plus loin. Maintenant, plus loin. Vous avez le Brésil, on parle de l'Inde, on parle de la Chine. Les gens qui reviennent de Chine disent qu'ils n'ont jamais vu autant de développement qu'en Chine. Alors, il faut qu'on balance tout ça quand on fait des finances publiques, quand on est au gouvernement. Mais, par ailleurs, il faut qu'on se rappelle toujours ce que nous a montré Luc, l'écart qui va devenir grandissant. Et sincèrement, je n'ai pas la solution. Mais je sais une chose. qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Si on veut le faire à petits pas, il faut qu'on le fasse maintenant. Il ne faut pas qu'on attende d'arriver à un endroit, comme ça a été le cas de l'Irlande, comme ça a été le cas de la Grèce. On dit que l'Italie est en problème, on dit que le Portugal est en problème, que l'Espagne est en problème. Il faut qu'on bouge, mais sagement, petits pas, mais qu'on avance. Et là, j'invite, bien sûr, la Grande Bibliothèque à nous fournir, et à l'UQAM, à nous fournir d'autres occasions pour débattre de ça.
Merci. Par contre,
si vous permettez, monsieur, je pense que ce serait une bonne idée de laisser la personne qui est derrière vous poser une question, parce que vous, ça fait déjà trois. Si vous voulez laisser votre voisin poser une question, oui, puis vous reviendrez après, si vous permettez.
J'aimerais seulement, madame ne m'a pas répondu, l'estimation...
Elle
a dit que c'était pas possible. Elle a dit que c'était pas possible de la faire, parce que par définition, ce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas.
Pendant que monsieur s'installe, je peux peut-être tenter une réponse juste complétée. Il existe une étude sur le site du ministère des Finances de 5 pages qui parle de l'évasion fiscale. Industrie de la construction, industrie de la restauration, les 2 premiers en tête de liste. Là. Ça se trouve facilement par Internet.
Bonsoir, Michel-André Roy. Ma question est pour vous, madame. La démonstration que M. Godbout nous a faite, il me semble qu'on l'a entendu souvent. Il semble avoir un consensus au Québec depuis 1 an ou 2 sur l'état de cette situation financière. On sait que les politiciens sont des gens intelligents, malgré que souvent l'immobilisme apparent, les gens aimeraient que ça aille un peu plus vite. Selon vous, quel sera l'élément déclencheur pour finalement passer à l'action? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour que ces souhaits-là et ces vœux-là se transposent en gestes?
Mais je suis bien contente que vous me posiez la question, parce que, à mon avis, c'est là le défi. Vous savez, moi, quand j'étais en politique, les gens me disaient qu'il fallait avoir du courage politique. Il faut avoir du courage politique. Bien, je vais vous en dire. Moi, là, j'ai rentré par... Je connais toutes les cuisines de tous les hôtels. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des démonstrations pendant 2 ans en avant de la porte. Alors, d'ailleurs, je dis à tout le monde, si vous voulez visiter quelque chose d'intéressant dans un hôtel, allez dans la cuisine, c'est la partie la plus intéressante. Mais il va falloir qu'on arrive à se mettre d'accord. Moi, je parle aujourd'hui, je me calcule maintenant, comme je ne suis plus politicienne, une bien-pensante. On arrive avec des recommandations. Il faut faire ci, il faut diminuer ça, il faut augmenter ça, il faut balancer le budget, etc. Comment? Là, c'est la question et le défi. Le défi est de taille. Je me rappelle de ma collègue Lynn Beauchamp, qui avait un document aussi étoffé, presque aussi étoffé que ce qu'a fait Luc juste avant moi, démontrant le défi qu'il fallait rencontrer. Elle est partie avec son bâton de pèlerin, faire une tournée de 17 conférences à travers le Québec, et le défi, c'était qu'est-ce qu'on fait maintenant que la démographie est négative, maintenant qu'on a moins de travailleurs pour soutenir un retraité, maintenant que les services de santé coûtent très cher et que, dans le fond, ils absorbent la moitié du budget. Savez-vous ce qui est arrivé durant les réunions? Les gens levaient la main pour en avoir encore plus. Quand je dis, c'est pour ça que je voulais parler de notre culture, de notre apprentissage, et là, c'est mon côté psychologique, l'apprentissage que nous avons fait à l'effet que l'État peut tout et va réussir tout. Là, il va falloir qu'il y ait, entre l'État, entre les syndicats, entre les médias, une plus grande collaboration. Il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que c'est pas vrai qu'une nouvelle quotidienne à la télévision, le matin, va complètement bousculer ce que vous êtes en train de faire. Puis là, finalement, ça devient... Tout le monde est toujours pour en avoir davantage, sauf que les chiffres nous disent qu'on peut pas. Alors, moi, je dis qu'il faut qu'il y ait une démarche importante au Québec pour qu'il y ait une solidarité, une approche où on va se tenir les coudes, parce que le défi, c'est nos enfants. Le défi, c'est nos enfants. Alors, moi, à moins d'avoir ça, je vous le dis, je ne suis pas aussi optimiste que je le serais si on avait une démarche comme celle-là. Mais ce ne serait pas facile d'arriver à ça, parce que les journaux et les médias, rappelez-vous, c'est une business. Il faut qu'ils fassent de l'argent, ces gens-là. Puis pour faire de l'argent, ils aiment avoir des nouvelles. Puis plus ils sont négatifs, plus apparemment qu'ils vendent des journaux. Alors, c'est ça, là, il y a quelque chose, là, qui clenche. Je suis en train de lire, dans le moment, les mémoires de Tony Blair. C'est pareil, là aussi. Les médias de 24 heures, 7 jours par semaine, 3 postes, 4 postes qui donnent la nouvelle constamment, c'est un peu problématique pour changer les choses. Avoir du courage politique, il faut qu'on ait l'appui populaire. Vous savez, tout le monde dans la rue, là, les gens n'aiment pas ça. Les Québécois n'aiment pas ça. Et bien sûr, c'est pour ça que je propose, moi, qu'il y ait une approche beaucoup plus de cohérence et de, je dirais, de solidarité dans la démarche à venir.
Merci. Alors, dernière question, monsieur.
Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle István Lakatos. Peut-être vous avez déjà répondu à ma question. Vous avez parlé tantôt de Jeffrey Canada. Et c'est par rapport à l'éducation. En fait, pour vous tous les deux que j'aimerais poser cette question, c'est que je sais, il y a le film, excusez-moi pour l'anglicisme, Waiting for Superman de David Guggenheim, où il parle. Vous connaissez sans doute ce film.
Non, je
ne
le connais pas.
Sur l'éducation, puis Jeffrey Canada est dans le film aussi. En fait, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu beaucoup des reportages, beaucoup des entrevues avec eux avant la première. Et j'ai vu des reportages sur CNN par rapport à la législation, en tout cas qui se passe aux États-Unis, que juste quelque chose, mais je ne suis pas pessimiste, c'est que la première fois que, en tout cas aux États-Unis, que les jeunes générations peut-être vont souffrir ou vivre plus mal que leurs précédents, ouais, les générations
exactement.
Parents, grands-parents, tout ça. Et même si les gens ont une très bonne éducation, que ce soit par exemple les universités aux États-Unis, Harvard, Yale, Princeton, ça ne va pas garantir nécessairement comme autrefois, vraiment, un bon boulot, tout ça. Puis j'imagine que les gens qui sont allés dans toutes ces universités, ils sont allés sans doute parce qu'ils ont aimé, par exemple, quelqu'un qui est devenu médecin, tout ça. Maintenant, selon vous, est-ce qu'il y a une certaine ressemblance au Québec? Est-ce qu'on peut parler de ça, que peut-être ici aussi, ça, l'éducation, c'est très bien, évidemment, sans éducation, c'est presque impossible. En même temps, on peut poser la question, il y a des gens qui n'ont pas fini leur diplôme universitaire, comme Mark Zuckerberg, fait, je pense, un an, lui, à Harvard, puis il est devenu super riche avec Facebook, tout ça. Donc, peut-être il y a une autre côté que, même si on n'a pas une maîtrise ou baccalauréat, doctorat, on peut réussir bien, en tout cas aux États-Unis, selon les reportages que j'ai vus. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Excusez-moi si c'est trop de questions en même temps.
Ben, moi, je vais répondre un peu, puis après ça, je pense que Luc va pouvoir ajouter quelque chose. Vous avez raison, c'est amusant que vous souleviez cette question, parce qu'il y a eu... sur la première page de la deuxième section affaires du Financial Times récemment, un article très intéressant, c'était l'histoire d'un couple dans la cinquantaine, tous les deux employés dans un hôpital, et qui vivaient, c'est pour ça que je parlais des valeurs québécoises, les valeurs chez nous, qui vivaient finalement dans l'insécurité totale. Si jamais ils perdaient leur emploi, ils n'avaient pas de service de santé, ils n'avaient pas de régime de protection sociale. Donc, nous, ici, on ne vit pas cette insécurité. Donc, je pense, et on ne tolérait pas cette insécurité. D'accord? Donc, on a quand même développé des valeurs de très grande solidarité. Et dans cet article-là, il racontait que pour la totalité, à part 1%, Le revenu des Américains n'a pas augmenté depuis 34 ans. Mais le revenu du 1% les plus riches a augmenté de 300%. Et ça, bien sûr, c'est de la semence pour créer du mécontentement. Quand vous voyez un écart, et d'ailleurs au Québec, nous, on a réussi à réduire l'écart entre les riches et les pauvres. On est pauvres en riches et riches en pauvres, mais... on a réduit l'écart entre les riches et les pauvres. On est venu en aide aux familles. Les familles sont beaucoup plus protégées chez nous que n'importe où ailleurs au Canada. Mais vous avez raison, je ne peux pas répondre à votre question spécifique. Peut-être que Luc, tu peux ajouter quelque chose.
Bien, je peux vous dire que ça, sans revenir à 1960 à nos jours, là, mais on coupe la poire en deux et on part autour de 1976. Si on regarde les personnes seules au Québec, les familles monoparentales puis les familles biparentales, puis qu'on regarde si elles se sont enrichies, la réponse est oui, elles se sont enrichies. Chacun des catégories de familles s'est enrichi au cours des 30 dernières années. Puis il n'y a pas de signe qui dit que ce ne sera pas le cas dans le futur. Donc, là-dessus, on n'a pas le scénario pessimiste que vous avez évoqué à l'égard des États-Unis. Et puis, du côté de l'éducation, c'est sûr qu'on peut toujours trouver un cas de quelqu'un qui n'a pas son secondaire 5 puis qui est rendu président d'une entreprise, puis quelqu'un qui a un doctorat puis qui est sur l'aide sociale. Mais ça, c'est les extrêmes entre les deux. Quand on a des études universitaires, la probabilité de travailler est plus forte puis le salaire moyen est plus élevé. Ça a l'air de rien, mais des études universitaires, on l'a entendu beaucoup hier avec les droits de scolarité, mais c'est le meilleur investissement que quelqu'un puisse faire. Il y a des retombées individuelles, puis il y a des retombées sociales, mais c'est un investissement, c'est pas s'endetter pour aller à l'école, et puis c'est comme gagner le gros lot.
D'ailleurs, il me racontait qu'un étudiant qui complète un bac sur sa vie durant a 1 million de plus d'argent?
C'est ça, avant impôt, malheureusement. Là. L'État veut en récupérer une partie. Mais
ça, il faut de l'argent.
C'est une blague. Donc, mais effectivement, là, sur le cycle de vie, on peut parler d'1 million là, en moyenne entre avoir un secondaire 5 puis avoir un baccalauréat. Donc, c'est significatif.
Alors, merci encore, M. Godbout, Mme Jérôme Forget, et bonne période des fêtes à tous.
Merci. 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 Merci.